Chapitre 16. La douce vie. Donc, c'était entendu. La famille Martin adoptait Pierre Royat comme un héros, comme le sauveteur de Lucette. Pierre avait beau protester, non contre l'adoption qui lui faisait grand plaisir, mais contre l'auréole. On ne l'écoutait pas. D'ailleurs, si même il n'avait pas été un héros aux escalettes, si, vous l'avez été, il avait été un héros de la guerre, des durs combats du début de la guerre. Grand-papa Martin savait bien ce qu'avaient fait les glorieux alpins du 22e. Donc c'était maintenant acquis dans la famille, cette famille affectueuse, expansive et inoccupée, lui témoignerait le plus de sollicitude, le gâterait davantage. On établit une rotation afin que chacun eût son tour. À 10h, grand-papa Martin venait lire à Pierre le communiqué tout frais et l'article du colonel Feiler. À 11h, grand-maman Martin l'emmenait faire un tour de jardin et lui racontait des histoires de la famille, car cette grand-maman était une chroniqueuse admirable. Elle savait des histoires de la famille qui remontaient au XVIIe siècle. Les Martin étaient de bonne bourgeoisie. Ils possédaient un arbre généalogique indiscutable. Jamais très riches, parfois appauvris, toujours considérés, ils avaient maintenant la belle situation que le père de Lucette avait créée par sa grande fabrique de machines. Tout en tournant lentement dans les douces allées sablées du petit parc qui attenait au jardin, Pierre écoutait ses récits et sentait s'élargir indéfiniment la distance qui le séparait de Lucette. Pourtant, quelle exquise intimité était la leur, chaque matin, au déjeuner pris en tête-à-tête. Pierre, sa toilette faite, descendait à la salle à manger, car il s'était vite repéré dans la maison. Monsieur Martin était déjà parti pour son bureau et Madame Martin déjeunait dans sa chambre. Lucette était là, seule, fraîche, pleine d'entrain. Il savait qu'elle était en blouse et jupe blanche depuis le matin. Elle lui avait dit que son père voulait l'avoir en blanc tout l'été. Alors, ils s'asseyaient tous deux à leur petit déjeuner odorant, de chocolat et de petits pains chauds que Catherine cuisait elle-même au four. Les lettres arrivaient. Il y en avait parfois une pour Pierre, de France ou de la ferme des Frênes, où Ric menait deuil sur l'absence de son cousin. Lucette était la lectrice d'abord, puis la secrétaire pour répondre, car Pierre n'avait pas songé à apporter sa belle et bonne. « C'est vous, Lucette, qui êtes ma belle et bonne, » dit-il en matin, comme elle lui proposait de faire venir sa machine à écrire. Puis il s'interrompit, effrayé de ce mot qui lui avait échappé et qui, pourtant, traduisait son admiration intérieure. Lucette rougit. Elle posa sa main sur celle de Pierre. « Ni l'un ni l'autre, » fit-elle à demi-voix. « Mais le peu de bonté que je puis avoir, c'est vous qui me l'avez donné. Maman le dit aussi que j'ai bien changé. J'avais les yeux clos par l'égoïsme, vous me les avez ouverts. J'ai honte de mes caprices à présent. » « Ah, Lucette !» dit Pierre, car dans l'intimité, ils s'appelaient par leur prénom seulement. « Je ne crois pas que vous ayez jamais été vraiment égoïste. » Dès la première heure, comme nous marchions ensemble dans ce sentier d'herbe, j'ai découvert votre cœur charmant. Et vous avez oublié le reste, c'est généreux, dit-elle. L'après-midi, on sortait, mais dès qu'on était rentré, Pierre se mettait à un petit travail qui émerveillait son entourage. Dans sa musette se trouvait un intéressant petit paquet contenant des fragments d'aluminium et de cuivre, débris de fusées d'obus allemands ramassés au bord du champ de bataille et, dans une boîte, des éclats de verre multicolores, chatoyants comme des pierres précieuses, rubis, saphirs et opales laiteuses. C'étaient les miettes d'une vieille église du XVe siècle, sous les voûtes trouées de laquelle Pierre avait passé une nuit avec son escouade. Ses souvenirs l'avaient suivi à l'ambulance, à la maison de rééducation. Il les avait souvent tâtés, espérant en faire quelque chose. Déjà, des ébauches finement limées étaient sorties des débris sans forme. Mais à Paris, sans cesse tourmenté par des maux de tête violents, Pierre n'avait plus s'appliquer comme il aurait voulu à ce travail minutieux. Son désir était maintenant de faire une bague avec le chaton en forme de croix de Lorraine pour la maman de Lucette. avec une bonne petite lime et un ciseau, et avec vos conseils, je crois que j'y arriverai, dit-il. J'ai ici un petit ruban d'aluminium très mince, je vais le limer, le polir, très égal et très doux, puis le mettre à la mesure du doigt de votre maman. On le soudera sous le chaton de cuivre. Je ne sais pas si ma croix de Lorraine sera bien régulière. Vous me prêterez vos yeux pour la corriger. » Monsieur Martin, lui-même limeur et tourneur par goût, et qui eût été un excellent ouvrier s'il n'avait pas été un grand patron, s'intéressait vivement aux essais de Pierre. Il lui choisit des outils, lui installa un petit établi dans la véranda où l'on passait les soirées. Quand on lui faisait compliment de son adresse, Pierre disait « Vous devriez voir le travail de mes camarades mécaniciens dans l'atelier qu'on a installé pour leur rééducation. Ils liment avec une précision parfaite, ils font des ajustages impeccables. Bientôt, ils gagneront tous leur vie largement et dans un métier intéressant. » « C'est à cette carrière que vous pensez pour vous-même ?» demanda M. Martin. « Oui, il y a des perspectives illimitées dans la mécanique maintenant. Cependant, je ne serai pas content de faire seulement des ébarbages et des ajustages. J'ai quelques idées. » Il s'interrompit, un peu gêné de paraître trop ambitieux. Il ajouta seulement que, déjà avant la guerre, comme il suivait des cours du soir après sa journée de jeune ouvrier, un professeur enthousiaste l'avait passionné pour l'étude des moteurs électriques et il s'était spécialisé dans cette étude. Il se hasarda même à révéler à M. Martin qu'il avait dans l'esprit une petite invention concernant les magnétos. À ce mot, M. Martin déclara qu'il lui ferait voir ses ateliers où, justement, on organisait une production intensive de magnétos pour l'aviation. « Nous avons de fortes commandes du gouvernement français, » poursuivit M. Martin. « Il est probable que nous devrons fonder une succursale près de Paris pour éviter les complications de transports et de douanes. » Là-dessus, ils causèrent longtemps de l'idée de Pierre, qui n'était pas encore au point, mais qui offrait certainement des possibilités. « Travaillez là, faites un petit modèle. Je mets un ouvrier à votre disposition, » dit M. Martin pour finir. « Mon dessinateur vous aidera. » Cette heure de conversation illumina le cerveau de Pierre d'une magnifique aurore de projets et d'espérance. Si son invention valait quelque chose, M. Martin lui aiderait certainement à prendre un brevet, et alors c'était l'existence assurée, l'aisance, la joie et la fierté d'être indépendant. C'était même davantage. Mais là, Pierre s'arrêtait comme devant un abîme entrouvert. Même indépendant, ne restait-il pas aveugle? Et comment demander à une jeune fille de vouer sa vie à une telle infirmité? Au bout de 15 jours, un petit miracle s'était fait. Pierre était de la maison à un tel point que Madame Martin disait à ses amis, tout en leur offrant le thé, sucré de saccharine et accompagné de gâteaux à la fécule de pommes de terre. « Nous ne comprenons plus la vie sans lui. Il s'est si bien adapté, il nous groupe. » « Oui, je vous assure qu'il nous groupe. Il est le centre avec Lucette. »« Merci, cher ami, le bras de Lucette va tout à fait bien. Cet enfant est si saine que ses éraflures se sont cicatrisées en 8 jours. À peine quelques marques. Non, il n'est resté aucun ébranlement. Elle se porte très bien. Je me porte très bien aussi. Nous sommes tous très contents. Je ne sais pas trop pourquoi. » Pierre nous occupe, mon mari lui aidera à refaire sa vie. Je crois vraiment que nous nous plaignions un peu trop auparavant. Je n'ose plus, quand j'entends parler de la guerre par quelqu'un qui l'a faite. Vous dites, cher ami, mais non, je vous assure que nous oublions par moments que Pierre est aveugle. Lucette lui prête ses yeux. Prenez garde, chère madame, qu'elle ne les lui prête définitivement, fit une vieille dame avisée. Alors, Madame Martin se tut subitement et devint fort songeuse. Ce qui prouve que Lucette était encore égoïste, c'est qu'elle eut un dur combat à soutenir pour réaliser un petit projet qui devait faire plaisir à Pierre, elle en était sûre. Rick, là-bas à la ferme, voyait tristement s'écouler ses vacances, tandis que le séjour de Pierre au Rosier se prolongeait. Quelle joie pour lui si on l'invitait à passer sa dernière quinzaine auprès de son cousin! mais alors il faudrait que Lucette cédât beaucoup de sa part, de ses douces fonctions d'infirmière, de promeneuse, de secrétaire. Éric n'était pas toujours commode. Madame Martin trouvait l'idée excellente. Elle était toujours heureuse de faire plaisir à quelqu'un et elle appréciait beaucoup ces excellents fermiers des Frênes. La lettre fut envoyée. On pense bien que Rick ne fit qu'un bond. Le train suivant l'amena. Il ne s'était même pas annoncé par téléphone. Son petit sac à la main, il sonna à la porte de la Villa des Rosiers. La femme de chambre, d'un air mystérieux, vint appeler Lucette. Celle-ci prit Rick par la main et l'amena, sans rien dire, jusqu'à la porte de la véranda où Pierre travaillait justement à ses bagues. Rick s'avança tout ému. « Qui est là ?» demanda Pierre en se tournant vers ce pas et cette respiration un peu saccadée. « Qui êtes-vous ? On s'annonce, voyons !» Car les gens qui le laissaient dans l'incertitude l'exaspéraient un peu. « C'est moi, c'est Rick !» fit le jeune garçon presque timidement, car de voir son cousin dans ce milieu nouveau l'impressionnait. « Rick, est-ce possible ? Viens que je t'embrasse !» s'écria Pierre en se levant. « Mademoiselle Lucette m'a invité pour 15 jours. Elle ne te l'avait pas dit ?»« Pas un mot. Quelle bonne surprise !»« Vrai ? Ça te fait plaisir ?»« Si, ça me fait plaisir, mon poteau. Il ne manquait que toi à mon bonheur. » Pour un mot comme celui-là, Rick aurait passé à travers le feu.